Tout de suite, c'est l'heure du journal de la rédaction, présenté par Ilan Malka. Bonjour Ilan.
Bonjour Maïlys Besri, bonjour à tous. L'Ukraine, l'Iran ou encore la Syrie, tels seront les sujets complexes qui seront sur la table de cette rencontre prévue aujourd'hui entre Emmanuel Macron et Vladimir Poutine. Le président français accueille son homologue russe dans la résidence du Var de Brégançon. Le rendez-vous est fixé à 16h. Bertrand Galichet nous en dira plus sur ces échanges que vont avoir ensemble les deux dirigeants. Une famille de l'Ain porte plainte contre X dans le cadre de l'affaire des bébés nés sans main. Cette plainte déposée pour mise en danger de la vie d'autrui intervient après qu'un comité d'experts en juillet a exclu dans ce département toute investigation supplémentaire. Ce comité a recommandé en revanche une enquête sur des cas dans le Morbihan. Nous entendrons les explications de Tara Schlegel. Il a dirigé le Soudan pendant 30 ans. Aujourd'hui, il est jugé pour corruption. Omar El-Béchir a comparu aujourd'hui sous haute sécurité devant un tribunal de Khartoum. Que faut-il attendre de ce procès? Éléments de réponse avec Nadine Epstein dans cette édition. À 12h45, la grande table d'été sera consacrée à l'artiste allemande Rebecca Horn, exposée au centre Pompidou-Metz, et en seconde partie, à l'écrivain irlandais Donal Ryan. Ce sera bien sûr en compagnie de Maïlys Besri. Le maître du Kremlin est donc cet après-midi à Brégançon. Vladimir Poutine va rencontrer Emmanuel Macron dès 16h. Les deux hommes s'étaient vus pour la dernière fois au G20 d'Osaka, c'était fin juin dernier. Alors cette visite de travail d'aujourd'hui s'inscrit, dit-on à l'Elysée, dans le cadre du dialogue continu avec la Russie, à quelques jours du G7 de Biarritz, dont le président russe est toujours exclu. Les différends entre les deux pays ne manquent pas sur des dossiers majeurs. Il sera ainsi question dans les échanges de l'Ukraine, du Moyen-Orient et même encore d'autres motifs de contentieux qui persiste entre la France et la Russie. Bertrand Galichet.
Moins d'une semaine avant le G7, dont la Russie est toujours exclue pour avoir annexé la Crimée, l'Ukraine, enjeu de sécurité majeur au cœur de l'Europe, est au menu de la rencontre de Brégançon. Emmanuel Macron souhaite que Vladimir Poutine réponde favorablement au président ukrainien, qui a demandé à Moscou d'agir sur les séparatistes pro-russes pour une désescalade des combats dans l'est de l'Ukraine. La France veut également inciter la Russie à peser sur l'Iran pour que le régime des Mollahs respecte l'accord de 2015 sur le nucléaire, malgré sa dénonciation par les États-Unis. Emmanuel Macron espère aussi que son homologue russe usera de son influence en Syrie pour aboutir à l'arrêt des opérations militaires à Idlib, dernière enclave rebelle. Enfin, la France parlera des libertés publiques en Russie après la répression des manifestations de ces dernières semaines. À la veille de cette rencontre, la justice russe a par ailleurs libéré de prison et placé en résidence surveillée le banquier français Philippe Delpal, poursuivi pour une affaire de fraude qu'il dénonce, l'un des dossiers qui empoisonne la relation entre les deux pays.
D'autres rencontres sont d'ores et déjà notées sur l'agenda d'Emmanuel Macron cette semaine. Ce jeudi, le chef de l'État reçoit le nouveau Premier ministre britannique Boris Johnson. Les deux hommes s'entretiendront du Brexit et des dossiers internationaux, toujours avant le G7. Le président va ensuite recevoir, jeudi toujours, le nouveau chef du gouvernement grec, Kyriakos Mitsotakis. Le sujet fait polémique depuis plusieurs jours. Le ministre de l'Agriculture, Didier Guillaume, et la ministre de la Cohésion des Territoires, Jacqueline Gourault, ont assisté mercredi dernier à une corrida à Bayonne, provoquant les critiques d'élus écologistes et de défenseurs de la cause animale. Bonjour Laura Dulieu.
Bonjour.
Didier Guillaume a finalement réagi à ce début de polémique et il a présenté ses excuses.
Mais oui, car Didier Guillaume, en tant que ministre de l'Agriculture, est également en charge du bien-être animal, ce qui peut paraître contradictoire avec le fait d'assister à une corrida. En l'occurrence, mercredi dernier à Bayonne, 6 taureaux ont été mis à mort par le matador dans l'arène. Élus écologistes et défenseurs de la cause animale sont montés au créneau. Le ministre a fini par réagir ce matin, c'était chez nos confrères de France Info. Il rappelle, comme souvent dans ce genre de débat, l'importance des traditions régionales.
Je crois qu'il ne faut pas opposer la maltraitance, le bien-être animal et des traditions séculaires. On a ce sujet sur la chasse, on a ce sujet sur la corrida, mais si je remets un débat et j'essaye de le remettre un peu rationnel, on va encore en prendre et je vais encore en prendre plein la figure, mais aujourd'hui il y a une tradition séculaire, la corrida n'est pas interdite, on peut vouloir qu'elle le soit, elle ne l'est pas.
Didier Guillaume se dit donc ouvert au débat sur l'interdiction de la corrida, mais aussi de certains types de chasse.
Il y a des types de chasse aujourd'hui qui sont séculaires, qui sont ancestraux, qui existent, dont beaucoup de Français voudraient qu'ils soient supprimés. Je pense que nous avons besoin de mener cette réflexion au fond, mais de façon dépassionnée. Et je ne crois pas qu'aujourd'hui, la période soit une période où elle puisse être dépassionnée.
Pas de débat dans l'immédiat donc, mais selon un sondage IFOP paru en mai 2018, 74% des Français quand même sont favorables à la suppression des corridas avec mise à mort.
Merci à vous Laura Dulieu. Du nouveau dans cette affaire des bébés nés sans main dans le département de l'Ain. On l'apprend aujourd'hui, une première plainte contre X pour mise en danger de la vie d'autrui a été déposée le 9 août au pôle de santé publique du tribunal de Marseille. C'est une famille dont le petit garçon est né en 2012 qui a déposé cette plainte. Bonjour Tara Schlegel.
Bonjour.
Il s'agit pour ses parents et leur avocat d'obliger la justice en fait à regarder de plus près le dossier justement dans ce département de l'Ain.
Alors il faut rappeler d'abord qu'en France il y a 3 suspicions de cluster, c'est-à-dire 3 départements dans lesquels on soupçonne qu'il y a plus de cas de cette malformation congénitale que ce qui est statistiquement acceptable. L'Ain est le département où ces bébés sans main ont été signalés en tout premier et la controverse entre le REMERA, le registre qui a pour mission de surveiller les naissances, et l'Agence Santé Publique France qui doit théoriquement protéger les familles de tout problème sanitaire est ancienne. Cette controverse est aussi très violente. Pour faire simple, le REMERA a signalé à Santé Publique France d'abord 3 cas en 2011, puis 5 en 2013, puis 6, puis 7, puis 8 et systématiquement l'agence à Paris n'a pas voulu reconnaître qu'il y avait des cas en surnombre. Après la découverte d'autres bébés sans main, nés en Bretagne, en Loire-Atlantique, et grâce à l'acharnement des familles qui ont fini par démontrer que les autorités ont tardé à mettre en place des enquêtes, le ministère de la Santé a mandaté Santé Publique France et l'ANSES afin qu'elles reprennent des investigations, investigations que Santé Publique France voulait abandonner. Des experts ont donc planché et mi-juillet dernier, ils ont affirmé qu'on allait poursuivre des recherches sur le terrain pour savoir d'où viennent ces malformations, mais seulement en Bretagne et en Loire-Atlantique, excluant de fait les familles de l'Ain en expliquant toujours que statistiquement il n'y a pas de cluster. Voilà pourquoi la maman du petit Louis s'est tournée vers un avocat. Maître Rajon doute que les deux agences soient impartiales dans ce dossier et il estime qu'il faut une instruction indépendante.
Merci à vous Tara Schlegel. En 2016, la France a rejeté plus de 11 000 tonnes de plastique rien qu'en Méditerranée. Ce sont des chiffres donnés par le WWF. Aujourd'hui, l'objectif, c'est de faire tomber ce chiffre à zéro d'ici 2025. Cap ambitieux, évidemment, fixé par le ministère de la Transition écologique, alors que le plastique représente 3/4 de la pollution marine. Et dans ce cadre, la secrétaire d'État Brune Poirson a lancé une charte plage sans plastique pour distinguer les villes qui s'engagent pour la défense du littoral. Comment s'engagent ces villes, justement? Quelles actions sont possibles? Élément de réponse dans l'une des premières communes signataires de cette charte, il s'agit de Boulogne-sur-Mer, dans le Pas-de-Calais, où Lisa Guyenne s'est rendue.
En arrivant sur cette grande étendue de sable fin, emblématique de la côte d'Opale, difficile d'apercevoir des déchets.
Nous avons souhaité que la plage soit une vitrine.
Frédéric Cuvillier est le maire de Boulogne. Aux entrées de la plage, il a fait installer des poubelles de tri et de drôles de réceptacles en forme de poissons géants.
Voilà, ce sont des poissons poubelles grillagés où on vient déposer ces détritus plastiques ou ces bouteilles plastiques. Et on se rend bien compte du message, c'est-à-dire que lorsque on ne collecte pas le plastique, bien ce sont les poissons qui iront le manger au final.
Ici, on distribue aussi des cendriers de plage gratuits. Une convention avec les commerçants prévoit de supprimer les plastiques à usage unique. La plage est aussi nettoyée 2 fois par jour à chaque marée. Un investissement chiffré à plusieurs centaines de milliers d'euros.
Ça coûte, mais c'est une question d'abord de volonté, de priorité, d'image. Et ces investissements-là ne sont pas vains parce que un touriste qui vient dans une station telle que Boulogne peut avoir conscience que tout est fait pour bien l'accueillir.
Il reste malgré tout une problématique face à laquelle la commune est impuissante. Chaque jour, avant le passage des engins de nettoyage, de nombreux déchets affluent sur la plage au gré des courants.
Nous devons aussi travailler sur ce que la mer nous ramène, et souvent de très très loin. Par la courantologie, nous avons des emballages espagnols, portugais, qui nous arrivent jusqu'ici. Donc c'est bien la preuve que c'est partout qu'il faut agir.
Une réponse internationale, c'est ce que va tenter d'élaborer l'ONU. Le sommet mondial sur le climat aura lieu dans un mois à New York.
Lisa Guyenne. C'est aujourd'hui que l'on doit connaître dans le détail le plan de reprise de WNX Whirlpool par la société AGECO Agencement à Amiens. Au total, ce sont 44 ex-salariés de cette usine WN qui doivent être repris. 138 doivent être licenciés. Certains ont déjà adressé une lettre de désistement pour ne pas être repris par la société AGECO Agencement. C'est le cas par exemple de cet ancien soudeur Farid Baalouj. Il veut simplement quitter l'usine.
J'ai qu'une hâte, c'est aller récupérer ma lettre de licenciement hein, et puis après partir quoi, et puis plus regarder derrière quoi, parce que je veux vraiment plus entendre parler de cette entreprise et de cette atmosphère qui était si spéciale quoi. Ça fait depuis la date du 24 janvier 2017 que les gens sont dans le flou depuis l'annonce de la fermeture de Whirlpool. On leur a promis monts et merveilles avec ce repreneur. C'était reparti pour un an. On leur a fait faire des formations bidons. Hein. Je peux vous le dire, c'était des formations bidons pour en arriver là quoi. Mais moi, le soulagement, ça sera, je vous dis, au moment où j'aurai vraiment la lettre dans les mains, c'est là que je je serais soulagé, quoi. Je pourrais me concentrer sur autre chose, quoi.
Voilà, sont réalisés par Alexandre Lepère de nos confrères de France Bleu Picardie. Après l'annonce aujourd'hui, les 138 employés licenciés seront tous reçus à Pôle emploi à partir de demain pour faire le point sur leur situation et leurs droits. En Italie, les secouristes sont mobilisés pour récupérer le corps de Simon Gauthier. Ce randonneur français de 27 ans a été, on le rappelle, retrouvé sans vie hier dans un ravin, 9 jours après s'être blessé dans le sud du pays. Il était parti marcher le 8 août dernier. Dès le lendemain matin, il avait appelé à l'aide en expliquant s'être cassé les deux jambes après être tombé d'une falaise. Il n'avait cependant pas pu dire où il se trouvait précisément. Il n'avait pas été possible de localiser son téléphone. C'est une mobilisation de ses proches et des appels dans les médias qui ont finalement permis de le localiser. Au Soudan, le président déchu Omar el-Béchir est jugé à partir d'aujourd'hui. Celui qui a dirigé le pays pendant 30 ans a comparu aujourd'hui sous haute sécurité devant un tribunal de Khartoum. Nadine Epstein, il est accusé de corruption.
La principale accusation reprochée à l'ex-dictateur est d'avoir détenu illégalement des devises étrangères et d'avoir accepté des cadeaux. Les procureurs pourraient l'entendre aussi sur de possibles faits de blanchiment d'argent et de financement du terrorisme. Plus de 113 millions de dollars en liquide ont été saisis à Khartoum dans la résidence de l'ex-président, affirmé fin juin le chef du conseil militaire. Par ailleurs, le général Omar al-Béchir a été inculpé en mai pour la répression meurtrière contre les manifestations populaires. Contre cette contestation qui a finalement forcé les militaires à lâcher le président soudanais et à le démettre. Aucune comparution pour cette accusation de meurtre n'a été fixée. La justice soudanaise ne demandera pas des comptes non plus au général Omar al-Béchir sur les accusations de la Cour pénale internationale. La Haye, qui demande son extradition, le poursuit pour crimes de guerre, crimes contre l'humanité, génocide. Selon l'ONU, le conflit au Darfour en 2003, ce sont plus de 300 000 morts et 2,5 millions de personnes déplacées, dont des centaines de milliers vivent encore dans la misère totale 15 ans plus tard. Aujourd'hui, ce procès pour corruption apparaît comme un épiphénomène pour la population soudanaise. Elle vit en ce moment la mise en place des institutions qui mettront fin à 30 ans de dictature.
Des précisions signées Nadine Epstein. En Inde, le brouillard commence à se dissiper au sujet de cette vague de répression qui est menée actuellement dans la région du Cachemire. Selon des sources gouvernementales et judiciaires, ce sont plus de 4000 politiciens, universitaires et militants des droits de l'homme qui ont été arrêtés depuis deux semaines de manière préventive. Le gouvernement prétend que cela est fait pour assurer la paix et la sécurité au lendemain de l'abrogation controversée de l'autonomie du Cachemire. Explication avec notre correspondant à New Delhi, Sébastien Farsi.
Depuis le 5 août dernier, le débat démocratique est mort au Cachemire indien. Ce jour-là, New Delhi annonce en effet l'abrogation unilatérale de l'autonomie de la région sans consulter sa population. Dans les jours qui suivent, tous les politiciens locaux qui n'appartiennent pas au parti nationaliste hindou au pouvoir à New Delhi sont arrêtés par l'armée sous prétexte qu'ils se seraient prononcés contre cette abrogation et représenteraient ainsi un risque pour l'ordre public. Parmi les détenus figurent les trois anciens chefs du gouvernement régional. New Delhi a reconnu l'arrestation d'une centaine de personnes, une rafle bien plus large en fait, qui aurait touché plus de 4000 personnes. Des universitaires, militants de droits de l'homme ou avocats, toute voix influente en fait, qui pourrait contester cette décision radicale. Comme toutes les communications sont coupées depuis deux semaines au Cachemire, il est quasiment impossible de savoir qui a ainsi disparu. Les prisons du Cachemire déborderaient et les détenus seraient donc envoyés par avion en dehors de la région. Ces arrestations arbitraires sont réalisées en suivant la loi du Cachemire sur la sécurité publique qui permet de détenir une personne pendant deux ans sans accusation formelle ni procès.
Sébastien Farsi, on l'apprend à l'instant, un tribunal russe a condamné aujourd'hui à 10 mois de prison ferme Gurvan Legal, ce Français reconnu coupable d'avoir tenté de corrompre des policiers lors d'un contrôle d'identité. Incarcéré en détention provisoire depuis 5 mois en Russie, Gurvan Legal dément les faits. Il devra encore purger 47 jours de prison conformément au système de comptage de la justice russe. Son avocat dénonce une décision incompréhensible. Le temps de cet après-midi, on attend des averses en Auvergne, en Bourgogne, risque de pluie également sur la façade ouest de la Normandie à la Nouvelle-Aquitaine. Partout ailleurs, c'est du beau temps, les températures partent de 18 dans la Somme et elles montent jusqu'à 30 en Corse cet après-midi. Cette édition a été préparée avec Julien Loquet, elle a été réalisée à la technique par Joël Leguet-Hennec.